Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, Arnaud Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. C'est bien connu, le jeune a besoin de ses yeux pour apprécier la musique. En témoigne ce documentaire diffusé par Arte le 30 novembre à 0h20, l'heure à laquelle le jeune regarde la télévision, qui témoigne d'un joli projet, raconte Renaud Machard dans Le Monde, associé des étudiants du cinéaste autrichien Michael Haneke à l'Académie de cinéma de Vienne et de jeunes chanteurs lyriques, élèves d'institutions musicales de la capitale autrichienne, pour la confection d'un recueil de clips classiques fondés sur des leaders. Le documentaire The Songbook, quand le clip embobine le lead de Florian Gebauer, suit les diverses étapes de ce travail, dès la sélection par audition des chanteurs, par un jury composé d'artistes lyriques tels Ildiko Raimondi, Angelika Kirchschlager ou Herbert Lippert. Ceux-ci vont faire répéter les 10 heureux élus et revoir avec eux, ligne par ligne, mot par mot, le sens caché ou masqué par de mauvaises habitudes interprétatives de ces pages de Haydn, Schubert ou Schumann. Cela accomplit, les musiciens passent en studio afin d'enregistrer ce qui servira de bande-son au cinéaste, non sans avoir discuté avec ces derniers du sens de leur choix visuel et de leur ajustement, voulu ou non, avec l'interprétation musicale. Le professeur Haneke, qui adore et connaît la musique, fréquente dans ses films, qui a signé de remarquables mises en scène d'opéra, rappelle une loi immuable. Il est stupide d'essayer de reproduire fidèlement l'histoire qui est racontée dans un lead. Ça ne marche pas, car la musique ouvre un espace bien plus grand. La musique et le texte suscitent toujours l'imagination du spectateur, alors qu'un film ou une photo ont tendance à la paralyser. Autrement dit, il faut procéder avec des moyens totalement différents. Il faut trouver quelque chose qui ouvre un nouvel espace de jeu. La combinaison de chants classiques et des vidéoclips modernes a donné lieu à de véritables petits chefs-d'œuvre, assure en épilogue la voix off du documentaire. On peut le vérifier en les regardant sur le site internet associé d'Arte, concert.arte.tv, où ils sont disponibles en libre accès. Il en est un toutefois qui reste très très circonspect sur l'ajout d'images à la musique, c'est Christian Merlin. Deux concerts de septembre ont posé avec acuité le problème du rapport entre l'image et le son, écrit-il dans le Figaro. Constamment culpabilisé sous prétexte qu'il serait archaïque et figé, le monde de la musique classique cherche des réponses à la question du renouvellement du public. Mot d'ordre, réviser le rituel du concert pour le rendre moins élitiste. Dans ce mouvement, qui tient souvent plus du slogan que de la réflexion, posant la question de la forme avant celle du fond, le salut passe par la dimension visuelle. Rien d'étonnant dans notre civilisation de l'image. Il est vrai que la question du dialogue, voire de la synthèse entre les arts est très stimulante, mais tout à son utopie d'œuvre d'art totale, un certain Richard Wagner mettait déjà en garde contre la simple addition de différentes formes d'expression artistique qui s'annulent. C'est bien ce à quoi on a assisté à 2 semaines d'intervalle à Strasbourg et à Paris. Se plaint Christian Merlin. Le week-end d'ouverture du festival Musica de Strasbourg mettait à l'honneur un des compositeurs français les plus passionnants du moment, Yann Robin, issu du mouvement qui travaille sur la saturation du son et pousse l'orchestre dans ses retranchements, le faisant sonner comme un volcan, creusant et déformant la matière sonore comme des magmas en fusion. Il y parvient avec une virtuosité orchestrale peu commune dans sa pièce symphonique Inferno, inspirée par l'enfer de Dante, une musique qui appelle les images, se dit-on, l'occasion de susciter une rencontre entre le compositeur et le vidéaste tchèque František Zvardon et de projeter sur grand écran le film réalisé par ce dernier à la Syrie de Trinec en République tchèque, tandis que l'orchestre joue sur scène. Résultat, au bout de 10 minutes, on éprouve le besoin de fermer les yeux, car les images très concrètes de l'artiste ne font qu'affadir la musique, la réduire à un simple accompagnement, voire à une plate illustration. On ne refera pas en une chronique un débat philosophique qui a enflammé toute l'époque romantique. La musique est-elle autonome ou peut-elle être au service d'un contenu? Vous me ferez une petite dissertation en 3 parties. On constate seulement que dans le cas précis, l'image a détourné l'attention de la musique. Une semaine après, rentrée de l'orchestre de chambre de Paris à la Philharmonie 2, ex-cité de la musique, pièce de résistance du programme, La Nuit Transfigurée, chef-d'œuvre d'Arnold Schoenberg. Cette pièce pour cordes de 1899 est inspirée par un poème expressionniste de Richard Demel où il est question d'un couple qui marche en forêt, tandis que la femme avoue à l'homme qu'elle attend un enfant d'un autre. Goûtera-t-on mieux la musique en sachant de quoi ça parle? L'occasion de commander à la vidéaste Netia Jones un film projeté sur grand écran derrière les musiciens. Douche froide, s'exclame le critique du Figaro. Quoi, la sublime musique de Schoenberg n'était donc que la bande originale d'une histoire naïve, de personnages banals et d'images fadasses? Mais non, bien sûr, elle se suffit à elle-même et la magie de ses sonorités ouvre des prolongements poétiques que seule permet l'imagination stimulée par l'écoute. Même cause, mêmes effets, on ferme les yeux et le charme rompu opère à nouveau. Stravinsky l'avait bien dit, la musique n'exprime rien d'autre qu'elle-même. Apprenons donc à écouter.